ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la cour m'initiative. C'est une sanction absolument imméritée en fait comme en droit à l'égard de Maître Isorni. Non point pour ce qu'il a dit hier, mais pour ce qu'il avait dit à la première audience du procès. Parce qu'avec la mutation des procès, procureurs généraux, cela donnerait à penser aux mauvais esprits seulement, bien entendu. Car ni en fait ni en droit, et monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats en est d'accord, une faute quelconque n'a été commise. Faudrait-il penser que parce qu'avant-hier un ministre annonçait par les trompettes de la publicité son intention de déposer une plainte à double détente contre Maître Isorni, dès le lendemain, pour l'incident du premier jour, et pour préparer le chemin à la plainte du ministre, on ait demandé à la Cour militaire de justice une sanction qui n'a rien de commun avec les faits qui prétendent la motiver. Ah, messieurs, prenons garde. Nous sommes venus devant vous pour y accomplir notre métier, pour l'accomplir de notre mieux. Nous avons pensé, après consultation de nos chefs, et depuis le mois de juillet 1962, il n'était pas possible pour des avocats dignes de ce nom, quelle que soit la composition ou la procédure d'une juridiction, de laisser sans conseil et sans assistance les accusés qui y étaient déférés. C'est pourquoi nous sommes venus, nous les assistons. Nous les conseillons, nous accomplissons au rythme de vos audiences deux par jour. Labeur écrasant qu'est le nôtre, un rythme qui ne l'est pas moins. Seulement si jamais la Cour militaire de justice devait appliquer une peine quelconque à notre confrère Isorni, nous comprendrions. Compte tenu de ce que je viens d'avoir l'honneur d'expliquer à la Cour militaire de justice, il y a ici deux catégories d'accusés. Il y a ceux qui sont dans le box, et il y a ceux qui sont devant le box. Et que, après tout, il semble, d'après le caractère impitoyable et parfaitement injustifié en droit et en fait de monsieur le procureur général, qu'obtenir la tête professionnelle d'Isorni serait encore plus réconfortant pour le pouvoir que la tête physique de Bastien Thierry. Seulement, ne croyez pas que c'est une procédure qui pourrait se poursuivre très longtemps, car nous sommes ici sur la foi des traités, comprenons-nous bien, même si nos clients, eux, n'y sont pas. Nous sommes ici sur la foi des traités, c'est-à-dire que nous pouvons faire l'objet de sanctions directes de la part de la juridiction de jugement, dessaisissant notre juridiction disciplinaire, c'est-à-dire notre conseil de l'ordre, mais que cette mesure, qui est en elle-même une offense à l'égard du barreau, ne doit être appliquée qu'avec un discernement évident. Et pour l'appliquer avec discernement, messieurs, qu'y a-t-il de mieux? Les précédents. Et placés devant les précédents, nous allons bien voir si nous sommes des accusés ou des avocats. J'étais, messieurs, encore étudiant en droit, lorsque mon excellent confrère et ami André Berton poursuivait une carrière politique en même temps qu'une carrière au palais de justice, carrière politique qui se poursuivait dans des eaux qui ne furent jamais les miennes. Maître André Berton plaidait à la cour d'assises du Haut-Rhin en 1925. Monsieur le procureur général Fachot, tenant le siège du ministère public, comme aujourd'hui monsieur le procureur général Gertoffer, tient ce même siège. C'était le procès des autonomistes alsaciens. Et ils avaient comme chef de file un docteur Ruclin, que l'on appelait alors le lion du Sungau, parce qu'il était d'Altkirch, et on reprochait essentiellement à Ruclin d'avoir été officier dans l'armée allemande de 1914 à 1918. Parmi les membres de la cour, il y avait un conseiller ou un juge, au sujet duquel maître André Berton reçut une lettre émanant d'un ecclésiastique au lieu d'émaner d'un ancien juge à Rastatt. Cette lettre lui dit « On reproche à votre client d'avoir été officier dans l'armée allemande, et le conseiller qui siège dans la cour d'assises l'a été à la fois plus longtemps et plus ardemment que lui. » Maître André Berton vérifia auprès de l'ecclésiastique, comme maître Isorny a vérifié auprès de M. Francis Boyer, puis devant la cour d'assises du Haut-Rhin, qui est une juridiction de droit commun. J'espère, messieurs, que sur ce plan, vous jugerez comme elle, et sur les mêmes réquisitions, sinon, ce serait évidemment très grave. Maître André Berton a lu la lettre. Monsieur le procureur général Fachot, que j'ai connu, était un homme tout au contraire de monsieur le procureur général Gertoffel. C'est un homme qui était sujet à des emballements et à des colères. Tandis que monsieur le procureur général Gertoffer est sans emballement, sans nerfs et sans colère, c'est bien ce qui le rend encore plus redoutable. Monsieur Fachot, sans avoir téléphoné à la chancellerie, voyez-vous, et pas davantage à monsieur Gaston Doumergue, qui habitait alors l'Élysée, prit à l'audience, sans qu'elle fût suspendue, des réquisitions contre maître André Berton. Il demanda, comme vous, monsieur le procureur général, la radiation de maître André Berton du barreau pour outrage à magistrat, en l'espèce le conseiller. Maître André Berton a été défendu par le bâtonnier de Colmar. Il a ajouté quelques mots, comme aujourd'hui maître Isorny le fera tout à l'heure. La procédure, elle, n'a pas changé. Quel a été le verdict de la cour d'assises? Maître André Berton a été exempté de toute sanction. Il a été jugé que ce faisant, il avait agi dans le cadre qui était le sien, dans le cadre de la défense des intérêts sacrés qui lui étaient confiés. Et monsieur le procureur général Fachot n'a pas eu satisfaction. Ce soir, il n'y pensait plus. Vous non plus, j'espère. Dans la cour militaire de justice aura suivi. Et pourquoi ne le ferait-elle pas, je vous le demande. La décision parfaitement sage et conforme au respect du droit et aux circonstances de fait de la cour d'assises du Haut-Rhin. Et à part cela, messieurs, il n'y a jamais un seul avocat qui ait été l'objet d'une mesure disciplinaire à l'audience, à l'exception de ce cher Georges Desbon, qui était à la barre, ce que M. Fachot était au siège du ministère public, et se laissait parfois aller à des entraînements très regrettables. Et lors du procès des Oustachis, il indiqua au président que celui-ci était plus soucieux de son avancement que de la justice. Imaginez un peu, monsieur le président, si je me livrais à des débordements pareils. C'est absolument inadmissible. Il fut radié, mais une loi d'amnistie vint ramener au bercail cette brebis très momentanément égarée et dont la passion du moment avait obscurci le respect des strictes et normales contents. Et puis c'est tout, messieurs. Si, peut-être, au tribunal militaire de Philippines, notre confrère d'alors, Hergé, a dit au président qu'il était non seulement un malhonnête homme, mais qu'il était un malotru. Commissaire du gouvernement, qui était, je crois, le commandant Le Kim, a repris la radiation. Le président et le tribunal ont infligé un an de suspension, mais par défaut, parce qu'il était parti, Hergé. Il a fait opposition. L'opposition a été visée devant le tribunal militaire de Bordeaux. Il lui a infligé un avertissement. Voici, messieurs, la jurisprudence en la matière. Maître Isorny s'est rendu coupable, ni à l'égard de M. le procureur Ministère Reboul, ni à l'égard de quelques membres de la Cour ministère de justice que ce soit, d'un outrage à magistrat. Tout cela n'est point sérieux et n'est point très loyal. En vertu des explications que je vous ai fournies tout à l'heure, des réquisitions inattendues ne sont pas possibles. Messieurs, ce n'est pas possible. Sur cette affirmation, j'en aurais certainement terminé avec ces explications que je veux sans passion et que j'ai voulu surtout former au strict examen des faits et des précédents. Ce sont les réquisitions qui sont sans précédent dans l'histoire judiciaire et à l'égard de qui, je vous le demande, ont-elles été prononcées? Elles ont été prononcées, messieurs, et c'est cela, voyez-vous, devrait, sur un tout autre plan, bien sûr, retenir votre attention et la retenir très sérieusement à l'égard de mes prisons. Qui a prêté serment en 1931, a été nommé premier secrétaire de la conférence des avocats, qui, je me souviens bien, à la rentrée de 1934. Premier secrétaire de la conférence, messieurs, ce titre, qui pour nous autres consacre, et de manière prestigieuse, la jeunesse. Comme ses espérances. Ce titre, il a consacré prince du stage. Il l'a obtenu après bien d'autres qui ont été l'honneur et la gloire du barreau de Paris. Depuis M. Poincaré jusqu'à M. Gilbert Maroger, secrétaire de la conférence depuis 1939, qui est mort au champ d'honneur en avril 1945. Depuis le bâtonnier Fourcade jusqu'à Léon Bérard, depuis Paul Boncourt jusqu'à Chantier de Ride, voici l'héritier de cette longue lignée de légistes et de juristes, de bâtonniers et d'hommes d'honneur. Voici l'héritier qu'aujourd'hui vous êtes appelé à juger. Et quel jour le jugez-vous? Vous le jugez le 6 février 1963, et vous le jugez sur les réquisitions d'un pouvoir qui a accoutumé depuis 18 ans de détester Maître Isorni, de le détester profondément, parce qu'il représente pour ce pouvoir une sorte de statut du commandeur, de remords probablement, et aussi de regrets. Ah, Isorni, messieurs, a été en effet l'avocat du maréchal Pétain. Il a, en cette occasion, prononcé l'une des plus admirables plaidoiries qui se puissent entendre, et il a été aussi l'avocat de Robert Brasillach, qui conduisit au poteau il y a 18 ans, aujourd'hui. Et depuis, messieurs, c'est son honneur, et c'est aussi sa noblesse. Depuis, Jacques Isorni s'est attaché jour après jour, allant au-delà de son devoir et au bout de sa mission, à tout faire pour réhabiliter, si l'on ose employer ce terme, la mémoire du vainqueur de Verdun, et à souligner qu'il n'est point convenable de dire qu'un arbre, une pelouse, et 2 ans de détention suffisaient quand c'est le contraire qui s'est produit, sans aucune intervention de la part de l'auteur de cette phrase, sans aucune intervention qui ne se soit produite pour mettre un terme aux souffrances et à la mort. C'est lui aussi qui a rappelé sans cesse que si là, le 6 février 1945, conduit Brasillach au poteau, et que la promesse de la grâce faite à François Mauriac n'avait pas été tenue, et il n'a jamais manqué de le rappeler. Alors, messieurs, il y a entre cet avocat, et je dirai davantage, entre arriérés puissants, de lutte, de combat, de contestation, de polémique, et c'est cet arriéré que l'on voudrait aujourd'hui voir réglé de manière définitive par les soins excellents de la Cour militaire de justice, primitivement instituée pour juger des accusés, et qui serait invitée également à régler les comptes du pouvoir avec un avocat qui lui déplaît. Ah, messieurs, il ne faut pas, je vous l'affirme, qu'il en soit ainsi. Il ne faut à aucun prix une sanction contre Maître Isorni dans des conditions pareilles, infirmes, de manière peut-être définitive. Immortelle parole du chancelier d'Aguesso, le barreau est aussi ancien que le droit et aussi nécessaire que la justice. Notre justice, messieurs, n'a pas à être mise au service du pouvoir à l'égard d'un avocat loyal, consciencieux et d'immense talent. De votre décision vont dépendre la philosophie et la morale que nous professons sur la justice. Le 6 février 1963, je pense à vous ce soir, aux morts de février.
Voici la déclaration de Jacques Isorni.
Il n'a fallu qu'une phrase à monsieur le procureur général militaire Gertofer pour vous demander de mettre un terme à 32 années d'une existence d'avocat. Le ministère public est indifférent à ce que fut et à ce que représente cette longue période de ma vie. Une telle indifférence est bien naturelle à la place d'exception qui est encore la sienne, qui va bientôt disparaître. Puisse ma mort professionnelle, si elle se produisait, apporter quelque apaisement au regret qu'il aura de la sienne. Mais si le ministère public propose, c'est à vous de disposer, et de disposer sans recours. Pour ma part, je ne puis solliciter aucune indulgence, car je n'ai commis aucune faute en remplissant une voie sacrée entre tous. En outre, j'ai combattu dans les limites de mon droit et du droit l'institution que vous représentez, et cela m'interdit de réclamer de vous autre chose que d'être juste. Mon défenseur vous a parlé de moi en des termes que l'amitié et la solidarité de luttes anciennes et actuelles ont rendu excessif. Je devrais plutôt retirer qu'ajouter à ce qu'il a dit. Depuis des années et des années, je m'étais consacré à la défense de citoyens français poursuivis devant les juridictions d'exception. Sous l'occupation, j'ai défendu des communistes et des résistants devant les sections spéciales, et déjà, je ne ménageais point le pouvoir. À la libération, c'est devant la haute cour, devant les cours de justice que j'ai plaidé. Puis à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé de toutes mes forces à défendre les libertés et l'indépendance de la magistrature en vue d'une vraie justice. De retour au barreau, il m'a fallu de nouveau plaider devant des juridictions d'exception, celles qui jugeaient des hommes et des événements de l'Algérie sacrifiés. Enfin, messieurs, devant la vôtre, pour la dernière fois peut-être, c'est à vous d'en décider. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entrepris au long de ma carrière a été dit et entrepris avec la passion de l'équité et la passion inséparable de ma nature. Pour certains hommes, je l'ai fait aussi avec amour. C'est pour cela que si je dois quitter la salle de vos audiences, je sais au plus profond de moi-même que je ne partirai pas seul. De grandes ombres viendront à mes côtés et qui m'accompagneront jusqu'au bout. Oui, je le sais. C'est leur témoignage lointain et pourtant présent qui importe seul à ma conscience. Je sais aussi que chassé de là-bas, je n'aurais pas trahi mon serment de défenseur et qu'aujourd'hui ou demain, la défense ne dira plus mon nom.
Au terme de la plaidoirie et de la déclaration que vous venez d'entendre, la Cour, après délibération, a rendu son arrêt. La suspension du barreau est infligée à Maître Jacques Isorni pour une durée de 3 ans. La peine est immédiatement applicable.